Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction. Je suis très honoré de cette invitation, parce que c'est la première fois que j'ai la chance de m'exprimer devant vous. Bien que je suive de loin en loin vos travaux, toujours extrêmement riches d'enseignements, je dois dire quand même que si j'ai accepté cette intervention brève ce soir, c'est avant tout, bien sûr, par amitié pour mon associé de l'université, avec qui je partage certaines réflexions qui parfois débouchent sur certains produits littéraires, ou moins littéraires, ou scientifiques, ou philosophiques, tels que celui qu'il va vous présenter ce soir. Sur le fond, je pense qu'il sera question de gouvernance, et pour tenter de donner un cadre, un contexte général à l'exposé qu'il va nous faire, je voudrais peut-être remettre les choses dans une perspective historique, pour comprendre où nous sommes, où nous serons peut-être très prochainement. Pour comprendre ce que nous sommes et où nous serons peut-être prochainement, il faut savoir d'où l'on vient. Je pense que le droit est parfois le reflet d'un certain nombre d'arbitrages entre différentes valeurs contradictoires, particulièrement en ce qui concerne la gestion d'entreprise. Bon, je ne vais pas être juriste ou trop juridique aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de vous donner en quelques minutes une grande idée des perspectives historiques s'agissant de la structure de la gouvernance des entreprises, des grandes entreprises en particulier, donc de la société anonyme, donc des sociétés cotées, qui sont quand même considérées comme l'emblème du capitalisme moderne ou postmoderne. La gouvernance est un sujet classique, mais elle a pris évidemment une dimension nouvelle dans les années 90, avec l'ouverture des marchés financiers et des grands marchés européens chez nous, et bien entendu dans le prolongement de la crise de 2008. Et je dirais qu'historiquement, la dynamique de la gouvernance et de son évolution, pratiquement dans tous les pays européens, et sans doute aussi dans le monde anglo-saxon, répond schématiquement à quatre grandes périodes que j'ai arbitrairement qualifiées pour la facilité d'exposer. Il y a un âge classique, il y a un âge moderne, il y a un âge postmoderne, et pour prendre une métaphore empruntée à l'histoire de l'art, il y a un âge altermoderne dans lequel nous sommes pour l'instant et que nous avons entamé un peu avant la crise de 2008. L'âge classique, c'est l'âge qui va à peu près du début de la révolution industrielle jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui va donner une nouvelle impulsion. Et il se caractérise par quoi ? Il se caractérise par l'idée que la société anonyme, même lorsqu'il s'agit d'une société cotée, est censée être la propriété de ses actionnaires, même si juridiquement, ça n'est pas tout à fait exact, mais enfin, la vision qu'on en a est que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, et cette vision se reflète dans la structure de gouvernance de l'entreprise, puisque le conseil d'administration est considéré comme un organe qu'elle peut subordonner à l'Assemblée Générale. Il en est le mandataire, suivant la logique du droit civil, à qui il doit rendre compte tous les ans, suivant les techniques mises en place par le droit positif. Il y a donc une espèce de hiérarchie, formelle en tout cas, mais qui est emblématique de la conception construite de l'entreprise à l'époque, au sommet de laquelle se trouve l'actionnaire de référence, l'actionnaire de contrôle, mais aussi l'actionnaire investisseur, même si la terminologie à l'époque n'est pas développée comme elle l'est aujourd'hui. Et le profit monétaire des actionnaires, il n'est pas question de bénéfices patrimoniaux indirects à l'époque, le profit monétaire des actionnaires est considéré finalement comme la finalité ultime de l'entreprise. L'âge moderne qui commence, à mon sens, après la Seconde Guerre mondiale et qui va se prolonger jusqu'en 1989, en tout cas dans notre pays, il se caractérise par un renversement du paradigme, pour emprunter un langage qui est plus familier à Benoît Friedman. Un renversement du paradigme, pourquoi ? Parce qu'on va s'apercevoir en définitive que l'Assemblée générale ne joue pas son rôle, l'absentéisme des actionnaires, la symétrie d'information, la complexité des problèmes qu'un conseil d'administration doit gérer, que le management doit gérer, n'est pas compatible avec une structure sociétaire où c'est l'Assemblée générale et les actionnaires qui prennent les décisions. Et à l'échelle européenne, ça se traduit par une première directive, la directive de 1968, qui va se traduire à son tour dans les différents pays de ce qui est à l'époque la communauté européenne par un renversement de la pyramide. Certains vont parler de l'avènement du Führerprinzip dans la mesure où c'est le conseil d'administration qui va recueillir le rôle prépondérant dans la gestion de l'entreprise. C'est lui qui est aux affaires, c'est lui qui connaît le mieux les problèmes de l'entreprise et c'est lui par conséquent qui reçoit une plénitude de compétences pour accomplir, selon la terminologie des juristes, tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. L'Assemblée générale, les actionnaires, devient un organe en quelque sorte, secondaire, puisqu'elle ne retient que des compétences qui lui sont spécifiquement réservées par la loi, notamment la reddition annuelle des comptes, et donc elle intervient après coup c'est le conseil d'administration qui est à l'avant-plan. Et simultanément, on va connaître une influence assez pressante du droit social sur la gestion d'entreprise. On ne passerons pas dans notre pays un système de co-gestion, il y a quand même une grande loi de 1948 qui organise l'instauration des conseils d'entreprise dans les entreprises d'une certaine importance, qui vont associer les travailleurs, sinon à la prise de décision du moins à un certain nombre d'informations. On va donc passer à un système de gestion d'entreprise qui met le conseil en avant, qui y associe plus ou moins directement les travailleurs. C'est une conception entrepreneuriale en quelque sorte de la société endémique qui va prévaloir. Et puis on arrive à l'âge postmoderne. Chez nous, en Belgique, cher Daniel, c'est 1989. Et ce n'est pas étranger d'ailleurs à la proximité de nos deux pays, puisque ce qui déclenche l'âge postmoderne, en tout cas en droit belge, des entreprises, c'est la tentative d'OPA de Carlo de Benedetti sur la Société Générale de Belgique, à laquelle se trouve associé le holding Cerus et un personnage célèbre en France, Alain Minck, était le conseil de Carlo de Benedetti dans cette affaire. Et ça va être un élément déclencheur sur le plan, je dirais, de l'anecdote historique, mais simultanément, cet élément déclencheur s'inscrit dans un grand mouvement de réforme des structures, de réforme des réglementations, de réforme des idées à l'échelle européenne dans les pays de l'Union. C'est le moment de l'ouverture du grand marché unique européen. C'est un mouvement de concentration des entreprises à l'échelle européenne, de consolidation qui va démarrer, l'OPA, une tentative de prise de contrôle de Carlo de Benedetti sur la Générale de Belgique s'inscrit dans ce mouvement, et c'est pas du tout anecdotique, et simultanément c'est le début de la renaissance, d'un développement sans précédent du financement désintermédié des entreprises par les marchés financiers en provenance du monde anglo-américain. Et dans ce contexte que j'appelle postmoderne, on va en matière de gouvernance revoir nos conceptions. Et on va revoir nos conceptions de deux façons, sur le fond d'abord, sur le plan structurel ensuite. Sur le fond, alors que nous avions une vision entrepreneuriale de la société à l'âge moderne, comme je viens de l'indiquer, c'est la primauté de l'investisseur, de l'actionnaire investisseur, de l'actionnaire minoritaire qui va être mise en avant, et cela va se traduire par un certain nombre de réformes importantes, à la fois sur le plan du droit financier, les lois sur la transparence, les lois sur les opérations obligatoires, mais aussi en droit des sociétés, puisqu'on va renforcer le rôle de l'actionnaire minoritaire par des techniques du droit des sociétés, renforcer ses possibilités d'intervention dans le cadre du fonctionnement de la société de manière telle qu'il puisse réagir s'il n'est pas satisfait autrement qu'en votant avec ses pieds, suivant l'expression consacrée. On va donc s'apercevoir qu'un mouvement se dessine en faveur d'une restauration du rôle de l'actionnaire et surtout de l'actionnaire minoritaire, et un certain nombre de compétences d'ailleurs vont remonter à l'Assemblée Générale des Actionnaires dans ce contexte. Et puis vient la première crise financière de 2001-2002, la bulle Internet. On commence à se poser des questions sur la pertinence du paradigme. On n'ose pas encore trop y toucher, parce que l'école de Chicago a le mérite, de la simplicité dans les prémices du raisonnement et les conclusions qu'il en tire. L'hypothèse du marché efficient, la valeur actionnariale qui fait l'objet du titre, je pense, de la conférence de ce soir, tout cela est mis en avant, c'est devenu un véritable tabou, mais avec les crises, les choses commencent à bouger un petit peu, et l'ère altermoderne, si j'ose dire, apparaît, et l'altermodernité, c'est en quelque sorte la réintroduction dans un modèle d'entreprise, d'entreprise cotée qui est tout entier dicté par le meilleur service du short-termisme de l'actionnaire investisseur, la réintroduction d'un certain nombre de considérations entrepreneuriales. Il est remarquable, par exemple, que le code de gouvernance d'entreprise en Belgique, qui paraît en 2004, juste après l'éclatement de l'Internet, code de gouvernance initié à l'origine dans la perspective d'une mise en valeur de l'actionnaire investisseur qui doit être protégé, comporte un certain nombre de considérations, sinon de principes, dans lesquels il est redit qu'en définitive, une bonne gestion d'entreprise suppose la prise en considération pas seulement de l'intérêt de l'actionnaire, mais aussi des différences des stakeholders. Pourquoi ? Parce que la bonne entente, en définitive, avec l'environnement économique est une condition de la continuité, de la profitabilité et du succès de l'entreprise. Ça, c'est l'altermodernité qui va en quelque sorte se trouver accentuée avec la crise de 2008. La crise de 2008, c'est véritablement l'élément déclencheur. Le modèle de l'école de Chicago explose, je caricature à peine, et nous avons depuis lors un certain nombre d'ouvrages, de réflexions qui tentent à recentrer précisément le rôle de l'entreprise sur la société dans son ensemble et sur les différents stakeholders dont la vie parfois dépend de la manière dont l'entreprise est gérée. Et nous venons d'avoir d'ailleurs un pénible exemple en Belgique, puisque je ne vais pas en faire une affaire, je ne peux pas faire du populisme, mais enfin, nous savons que par exemple, un employé d'Arcelor s'est suicidé il y a 2 jours à cause d'un licenciement. Ça pose aussi le problème du rôle de l'entreprise dans la société en général. Voilà la perspective, voilà nous en sommes, on est un peu à la croisée des chemins. Alors, parce que tout ceci ne sont que des signes annonciateurs qui vont déboucher sur des vœux pieux, il est sans doute trop tôt pour le dire, mais des ouvrages comme ceux que vient de publier Daniel Hurstel et des exposés comme ceux qu'il va nous présenter ce soir vont sans doute nous aider à davantage préciser la question et voir quelles sont les voies de l'avenir sur ce sujet. Daniel, je te cède la parole.